À l'aube du 4 juin 1989, le gouvernement chinois a mobilisé plus de 200 000 soldats afin d'encercler Pékin, puis d'y pénétrer. Ils ont ainsi perpétré un massacre qui a bouleversé le monde entier. Pourtant, à ce jour, nous n'avons toujours pas les chiffres exacts du nombre de victimes. Le poète, écrivain, artiste et musicien Liao Yiwu est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouvel opus qui retrace le drame de Tiananmen intitulé « Des balles et de l'opium ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et ce soir, ça sera Leonard Cohen qui va évoquer le drame de Tiananmen dans cette magnifique chanson qui s'intitule « Démocratie ».
Lonely say that the heart has got to open it. coming to the USA.
Liu Yiwu, vous avez toujours souffert du manque de démocratie. Durant votre haute enfance, je rappelle que vous êtes né en 58 à Yanting dans le Sichuan. Vous êtes né durant la Grande Famine. Votre père était professeur de littérature et il a été condamné lors de la Révolution culturelle en 1966. Comment avez-vous vécu votre enfance ?
Mon enfance a commencé par la grande famine. J'ai failli mourir de faim. Ensuite, il y a eu des céréales. Et j'étais très faible. Et comme mon père était un professeur qui enseignait la littérature classique, il a voulu me donner une très bonne éducation pour compenser. Et donc, il m'a forcé à apprendre les poèmes anciens. À l'époque, j'avais à peine appris à parler. Donc, retenir par cœur des poèmes traditionnels, c'était vraiment difficile. Alors, je pleurais, je criais. Heureusement, mon père ne m'a jamais battu, mais il me mettait sur une chaise très très haute et je pouvais pas m'échapper parce que j'étais trop petit pour sauter. Et donc, on peut dire que cette table haute, c'était ma première prison. Alors, du coup, je peux dire que j'ai cet avantage sur les autres enfants de l'époque. C'est que je connaissais bien la littérature classique, mais évidemment, je haïssais mon père à cause de ça. Et ce n'est que beaucoup, beaucoup d'années plus tard que je me suis rendu compte que dans ma façon d'écrire, il sortait beaucoup de caractères, de parfums issus de cette littérature classique. Et là, à ce moment-là, j'ai compris mon père.
Avant d'être emprisonné par le pouvoir chinois en 1990, après les événements tragiques de Tiananmen, vous êtes devenu une sorte de clochard céleste, une sorte de beatnik chinois. Vous avez arpenté la Chine en faisant de la musique. Vous êtes d'ailleurs venu avec vos deux instruments dans votre sac à dos, dans ce studio ce soir. J'espère que vous allez en jouer tout à l'heure. À quoi correspondait cette période ? Vous vouliez être poète ?
À l'époque, dans les années 80, les influences de l'Occident ont commencé à entrer en Chine. Et par exemple, j'écoutais de la musique occidentale, j'écoutais Ginsberg, j'adorais tout ça. J'adorais Kerouac et on a commencé à se rébeller contre la tradition chinoise, contre les vieilles choses, on voulait se libérer. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de drogue encore, sinon je me serais mise à fumer n'importe quoi. Mais j'avais un idéal quand même, très lointain. Je trouvais que à cette époque, toute la jeunesse avait en tête une espèce d'utopie. Mais on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on voulait. On n'imaginait même pas pouvoir arriver un jour en États-Unis pour profiter de la démocratie. Donc on s'est dit que ce serait le moment de demander la démocratie en Chine, pour nous, en chinois, dans notre propre pays. Alors, bien sûr, le Coca-Cola, le système démocratique, tout ça, ça venait de l'Occident, mais on se disait aussi, pourquoi pas en Chine ? Et c'est pour ça qu'en 1989, toutes sortes de jeunes gens se sont retrouvés dans la rue et avaient la certitude que nous pouvions évoluer vers la démocratie.
Vous étiez un poète influent, c'est d'ailleurs à ce titre que vous avez été emprisonné par le pouvoir chinois à la suite des événements de Tiananmen. Ce dernier livre, intitulé « Des balles et de l'opium », qui est un livre stupéfiant puisque vous avez réussi à retrouver tous les survivants de la tragédie de Tiananmen et vous avez réussi à collecter leurs témoignages, leur analyse et leur mise en perspective à 30 ans maintenant. Nous sommes à 30 ans des événements de Tiananmen. Mais ce livre s'ouvre sur un poème qui a traversé l'immensité de votre pays, Liao Yiwu. Ce poème s'intitule « Le Grand Massacre ». À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, mais pourtant, tout le monde, toute la jeunesse a appris par cœur ce poème. Je vous propose de prendre vos deux instruments, les sortir du sac à dos et de jouer. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de lire les premières strophes de votre poème. Vous êtes d'accord? Oui, alors on y va. On invente en direct. Donc ce poème, c'est la source de votre premier emprisonnement, parce qu'il y aura plusieurs emprisonnements dans votre itinéraire. Vous vivez actuellement en exil à Berlin, et ce depuis 2011. Donc ce poème, Le Grand Massacre, a été écrit par vous en juin-juillet 1989. Le Grand Massacre commence par le cœur de Pékin, quand le Premier ministre s'enrhume. Le peuple tousse, la ville vient d'être fermée, puis bloquée et enfin assiégée. La machine d'État de ce vieux pays malade n'a plus de dents pour broyer le peuple qui résiste et voudrait lui échapper. Pas l'ombre d'une arme entre leurs mains et pourtant, ils sont des milliers tombés à terre. Les assassins professionnels, eux, arborant fer et cuivre, nagent dans une mer de sang. Un incendie criminel ravage notre maison. Ils ne tremblent pas d'essuyer leurs bottes de cuir aux jupes des filles mortes. Ils ne tremblent pas, ces robots privés de cœur. Leurs cerveaux électriques ne sont que des logiciels. Les déclarations officielles restent extrêmement lacunaires. De la part de la patrie, massacrer le code des lois. De la part de la loi, massacrer la justice. De la part de chaque mère, étouffer les enfants. De la part des enfants, violer tous les pères. De la part des femmes, tuer les maris. De la part du citadin, bombarder les villes. Tirer, tirer sur les personnes âgées, les enfants, les femmes, sur les étudiants, sur les ouvriers, sur les enseignants, sur les commerçants. Mitrailler, mitrailler, viser chacun des visages en colère, les visages surpris, les visages fourbes, les visages riant misérablement, les visages pacifiques ou désespérés. Mitrailler, à tout prix, mitrailler. Je vous propose d'écouter un document sonore, Liao Yiwu, qui retrace ce qui s'est passé il y a 30 ans dans votre pays, la Chine. Manifestation de la place Tiananmen, 20h d'Antenne 2, 4 juin 1989.
Pékin n'est plus ce soir qu'une capitale meurtrie et dévastée. Alors que les tirs continuaient sur la place Tiananmen, qui rassembla pendant 7 semaines les espoirs de liberté de la jeunesse chinoise, la population affolée compte ses morts et tente encore de sauver les milliers de blessés des combats de la nuit dernière. Il était un peu plus de 21h heure française hier soir quand les lampadaires qui éclairaient la place Tiananmen se sont tout à coup éteints. L'armée du gouvernement chinois venait de lancer la bataille sanglante destinée à mettre fin à la révolte des étudiants. Des étudiants qui espéraient encore une fois pouvoir fraterniser avec la troupe. Dès le début de la soirée, de violents affrontements avaient commencé d'opposer les soldats aux milliers d'étudiants rejoints au centre de la capitale par une foule en colère qui a longtemps tenté de contenir les convois militaires aux portes de la place. Pour la première fois depuis l'instauration de la loi martiale il y a 3 semaines, l'armée a tiré dans la foule. Bilan sans doute partiel, on parle ce soir de plus d'un millier de morts.
Nous nous souvenons tous ce matin-là, du 5 juin 1989, de ce jeune homme qui s'est levé, qui a empêché à lui tout seul une colonne de chars d'avancer. Il s'est immobilisé au milieu de la large avenue face à 18 tanks modèle 59. Cette image est restée dans toutes nos mémoires, et ce, dans le monde entier, Liaoyu. Cet homme, ce jeune homme, on l'a appelé l'homme au tank. Il s'appelait Wang Weilin. Qu'est-il devenu ?
J'ai demandé à beaucoup des personnages qu'on rencontre dans mon livre où se trouve Wang Weilin. Ils m'ont dit on n'a jamais rencontré de Wang Weilin en prison. Parmi les émeutiers, il n'y avait pas de Wang Weilin. Donc tout le monde pense que Wang Weilin, de toute façon, n'était pas son nom. Donc est-ce que cet homme est encore vivant ou mort ? Personne ne le sait. Je dirais qu'il est devenu un mythe. Bien sûr, c'est un symbole de Tiananmen, mais en même temps, c'est une légende. Parce qu'on sait seulement qu'il y a eu cet homme-là à ce moment-là. Mais derrière Wang Weilin, il y a eu des centaines de Wang Weilin. Il y a eu tellement de gens maintenant anonymes qui sont restés devant les tanks, qui ont essayé de les empêcher d'écraser les étudiants sur la place Tiananmen. Et tous ces gens-là se sont retrouvés soit en prison. Et si j'avais pas écrit ce livre des balles et de l'opium, on ne saurait même pas qu'il y a eu tous ces Wang Weilin qui ont eu aussi ce geste extraordinairement courageux.
Avant les événements à Pékin sur la place de Tiananmen, il y a eu beaucoup de révoltes dans les grandes villes de Chine, notamment de la part des étudiants. Est-ce que la tragédie de Tiananmen a été pressentie par vous, le peuple des étudiants à l'époque, en 89, Liaoyu?
Oui, à Chengdu, dans ma ville, il y avait aussi des incidents. Il y a eu des incidents à Shanghai, il y a eu des tanks, des voitures militaires qui ont été brûlées. Tout le monde se rebellait, mais tout le monde espérait devenir quelqu'un. Mais il ne reste de tout ça que le nom de Wang Weilin. Je sais que beaucoup de gens qui ont fui vers l'Occident ont raconté leur expérience. Il y a eu beaucoup d'étudiants, des leaders étudiantins qui ont raconté leur expérience à eux. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parlé de l'ensemble de cette masse populaire de Pékin, de Chengdu, de Shanghai, qui ont pensé à tous ces êtres anonymes.
Vous, qui vivez maintenant en exil depuis 2011 à Berlin, vous qui avez fondé une famille à Berlin, vous qui êtes heureux maintenant à Berlin, Liaoyu, vous avez décidé de continuer à restituer l'histoire des trois dernières décennies de votre pays, la Chine, grâce à une qualité à la fois de grand poète, mais aussi d'enquêteur. D'enquêteur obstiné. Dans ce dernier livre, Des balles et de l'opium, vous arrivez à retrouver des survivants de cette tragédie, mais certains d'entre eux, pratiquement une majorité d'entre eux, vous dit qu'ils n'ont pas envie de se souvenir de Tiananmen. Pourquoi ?
En fait, moi qui suis déjà parti en Occident, je vis en Allemagne et je peux dire que j'ai réussi puisque je peux travailler de ma plume. J'ai publié 4 livres en Allemagne et un jour, mon éditeur m'a dit « Bon, ça fait 8 ans que tu as émigré, peut-être que tu pourrais raconter ta vie à l'étranger ». Et moi, je me suis dit, oui, c'est pas mal, ça me changerait les idées d'écrire ma vie en exil. Mais souvent, il se passe des choses à quoi on ne s'attend pas à l'origine. Par exemple, dans ce livre, que j'ai écrit sur les gens qui étaient dans la foule. Il y avait un héros qui lui a jeté un œuf sur la tête de Mao, et sur le portrait de Mao, et il m'a dit, ce serait bien qu'un livre paraisse sur nous, parce que moi je suis exilé aux États-Unis, je suis très solitaire, j'ai un très mauvais boulot, j'ai pas d'argent. Et je lui ai dit, je travaille comme boueux. Et puis en plus j'ai emmené avec moi un autre ancien prisonnier, mais lui il est devenu fou, donc c'est très très difficile de vivre avec lui et de s'occuper de lui en plus. Et moi je lui ai dit, mais c'est pas moi qui décide qui va traduire quoi et qui va éditer quoi. Mais le plus terrible, c'est qu'une semaine après, ce pauvre homme est mort. Ça m'a fait un choc horrible. Et puis, quelques mois plus tard, c'est mon ami Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix, qui est décédé. Nous avons tout fait pour essayer de d'obtenir sa sortie de Chine vers l'Allemagne ou les États-Unis avant sa mort. Mais finalement, le Parti communiste chinois l'a gardé en détention jusqu'à son dernier souffle. Et c'est pour ça que j'ai pas pu me détacher de toutes ces histoires.
Vous avez un devoir de mémoire vis-à-vis de toutes ces personnes avec qui vous avez vécu, emprisonné, avec qui vous avez été torturé. Vous avez un devoir de mémoire par rapport à toute cette jeunesse qui continue à se révolter dans votre propre pays. Vous avez été l'ami, vous le dites et vous le rappelez dans ce livre extraordinaire des Balles et de l'opium, de cet immense poète Liao Xiaobo qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2010. Qu'il n'a pas pu recevoir puisqu'il était emprisonné. Je vous propose tout de suite d'écouter une archive INA du 8 octobre 2010 d'Alain Passerelle et de Dominique André. Nous allons écouter comment ce prix Nobel de la paix, Liao Xiaobo, va pouvoir apprendre qu'il a reçu le prix Nobel de la paix, mais ne pas pouvoir le recevoir. Portrait de ce dissident chinois emprisonné en Chine, qui, hélas, est mort en prison en juillet 2007, sans pouvoir sortir libre, malgré la pression de tous les intellectuels du monde entier pour qu'il sorte de cette prison. Écoutons cette archive.
Il s'appelle Liu Xiaobo, il est chinois et c'est à lui qu'a été attribué aujourd'hui à Oslo le prix Nobel de la paix. L'homme est un dissident, il est actuellement emprisonné. Inutile de dire que Pékin n'est pas content, nous le verrons. Mais d'abord, qui est cet homme? Dominique André.
Pour beaucoup, Liu Xiaobo est un inconnu. Et pourtant, cet intellectuel de 54 ans est l'une des figures de la dissidence chinoise. Critique littéraire, ce professeur de littérature a publié plusieurs livres sur la philosophie et l'esthétique à l'étranger avant d'entrer en dissidence. C'est en 1989, lors du mouvement démocratique de la place Tiananmen, que Liu Xiaobo se fait remarquer par le régime chinois. Il participe à une grève de la faim et tente de négocier avec les autorités pour que les étudiants puissent quitter la place. Il passe 20 mois derrière les barreaux. Puis dans les années 90, il est envoyé dans un camp de rééducation par le travail. À sa sortie, il est assigné à résidence pendant 6 mois. Mais Liu Xiaobo, l'infatigable, poursuit son combat pour des réformes politiques en Chine. En 2008, l'année des Jeux Olympiques, il participe à la rédaction de la charte 08 pour demander la démocratie et la fin du parti unique. Ce manifeste politique l'envoie à nouveau en prison. En 2009, il est condamné à 11 ans d'emprisonnement pour subversion du pouvoir de l'État. Pékin qualifie le prix Nobel de la paix de criminel.
Pékin, qui auparavant avait tenté de faire pression d'ailleurs sur la décision du comité, n'a pas du tout apprécié le choix du Nobel. Les autorités chinoises ont même parlé d'obscénité. Stéphane Pambrin à Pékin.
La Chine a accueilli la nouvelle par un écran noir. Pas un mot sur le prix Nobel dans les journaux du soir de la télévision d'État. Pas un mot non plus sur Internet, où les forums consacrés à Liu Xiaobo sont de toute façon bloqués par la censure chinoise. Même les chaînes internationales, les rares à pouvoir être diffusées en Chine, voient leur écran passer au noir lorsque le prix Nobel est évoqué. C'est le cas de CNN et de BBC, dont les reportages ont été caviardés.
Vous avez préfacé, Liao Yiwu, un texte qui a été publié récemment. Ce sont des lettres à une femme interdite. Cette femme interdite, c'est l'épouse, justement, du prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo. Elle s'appelle Liu Xia, c'était et c'est toujours votre amie. Et à l'intérieur de ce texte, on reproduit, l'éditeur reproduit la lettre que vous avez envoyée à l'épouse du prix Nobel de la paix lorsque vous avez appris la mort de votre ami. C'est une lettre bouleversante et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir combien il y a de Liu Xiaobo dans les geôles chinoises.
Pour le moment, je ne peux pas dire exactement, mais ce que je sais, c'est qu'un de mes amis, Wang Yi, a été arrêté en 2012, en décembre, et je suis très inquiet, j'ai peur qu'il devienne un autre Liu Xiaobo. En effet, je repense au dernier moment de Liu Xiaobo. Malgré son extrême notoriété, il a quand même connu des derniers moments épouvantables. D'après l'explication de Liu Xia qui m'a raconté ces derniers moments, elle était à son chevet. Elle a remarqué que ses pieds n'arrêtaient pas de marcher. Il était allongé, mais les pieds continuaient à bouger comme quelqu'un qui marche. Ça a duré pendant une heure. Si on disait que c'est un geste amoureux, on dirait que c'était une façon de dire à Liu Xia, va, pars, marche, va-t'en, quitte la Chine. Mais on peut aussi se demander, est-ce qu'il n'aurait été pas drogué? Est-ce que les Chinois n'auraient pas fait quelque chose pour qu'il souffre encore plus? On ne sait pas. Il y a tant de Chinois qui sont morts dans des grandes souffrances. Liu Xiaobo avait toujours dit qu'il était une espèce d'aristocrate de la prison. Il disait qu'il était privilégié, il était bien connu. Mais en fait, au bout du compte, lui aussi a été assassiné.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous allez écouter un document musical interprété par Maudy, intitulé justement le 4 juin 1989. Au cours de cette musique, vous allez entendre des paroles du prix Nobel de la paix. Écoutez.
from the pieces of our shattered stone. It storms from the parted lover's lips, from the nail-less fingertips, from the whispers of our silenced voice. It storms.
Nous venons d'entendre donc ce document interprété par Maudit. C'était pour rendre hommage à votre courage, à vos engagements, Yao Iwu, à votre obstination de rendre compte de tout ce dont on ne parle pas beaucoup dans la presse occidentale, de ce qui se passe dans votre propre pays. Vous avez accepté de jouer tout à l'heure de vos deux instruments pendant que je tentais maladroitement de restituer votre poème Massacre qui vous a valu un emprisonnement en 1990. Vous avez été emprisonné puis torturé pendant 4 ans en Chine. À partir de quel moment avez-vous décidé qu'un jour vous alliez restituer ce que fut cette traversée de l'enfer? Et vous l'avez fait à travers un livre lui aussi magistral, traduit en français, mais traduit dans le monde entier aussi, qui s'intitule « Dans l'Empire des Ténèbres ». À quel moment l'écriture est-elle venue comme une évidence, Lia Iwu?
Quand
je suis sortie de prison, la société chinoise avait complètement changé. Et tout ce qui s'était passé 4 ans plus tôt, tout le monde était en train de l'oublier. Tout le monde était en train de courir après l'argent. Et tous les prisonniers politiques qui sont encore en prison ou déjà sortis étaient méprisés. Et moi, je me suis sentie prêt à perdre la raison. J'essayais de parler à mes amis, ils ne me répondaient pas au téléphone, ils me fuyaient, ils avaient peur de moi. À ce moment-là, le seul moyen de s'en sortir, c'est de prendre sa plume et d'écrire.
Et
pendant qu'on écrit, c'est une façon aussi de se guérir. Je me sentais déjà devenir fou, j'étais plein de haine, j'étais plein de violence. J'étais une fois dans un bar et j'ai commencé à me battre avec un vieil ivrogne. J'ai cassé une bouteille et j'ai failli le tuer avec un morceau de verre. J'ai téléphoné à mon ami Liu Xiaobo et il m'a dit « Fais attention, si tu refais une chose pareille et que tu tues quelqu'un, on va t'arrêter et cette fois-ci, tu seras exécuté et tu l'auras bien mérité. » Alors je me suis dit, bon, ok, il faut que je me remette à l'écriture. Mon manuscrit a été confisqué par les autorités 2 fois de suite. Je l'ai réécrit 3e fois. Ce n'est pas parce que je suis exceptionnel que j'ai fait ça. C'est parce que je m'inquiétais que tout ce que j'avais vécu puisse tomber dans l'oubli.
En 2008, vous allez être l'un des 303 signataires de la charte 08 pour promouvoir la réforme politique et le mouvement démocratique chinois dans votre pays. Que vous est-il arrivé après la signature de cette charte?
Évidemment, les idéaux de Liu Xiaobo sont très particuliers. Moi, je suis très différente de lui. Moi, je cherchais à faire des tas de choses, à voyager. Mais En même temps, j'avais très envie de liberté, j'avais très envie de m'évader. Mais parce que Liu Xiaobo avait cette attitude tellement sérieuse, tellement concentrée, tellement profonde, j'étais très différente de lui. Mais au départ, je pensais que je serais jamais amie avec des gens comme lui dans son milieu d'intellectuel et tout ça. Je voulais faire ma musique et tout ça. Mais à cause du massacre de Tiananmen, nous nous sommes rapprochés.
Pourquoi avez-vous décidé de venir vivre en Occident, Yaouiwu?
À l'époque, je devais publier mon Empire des Ténèbres en Allemagne et les autorités chinoises m'ont dit « c'est interdit de publier ce livre à l'étranger ». Et si tu tiens absolument à publier ce livre à l'étranger, tu seras condamné à la prison. Et cette fois-ci, probablement au moins 11 ans de prison. Et moi, je me suis dit « qu'est-ce que je fais ?» Il voulait pas que je quitte la Chine, il voulait pas que j'édite mon livre, alors qu'est-ce qui me restait à faire? À ce moment-là, j'ai pris une décision aussi grave pour ma vie que le moment où j'ai écrit le poème Le Grand Massacre. Et je me suis dit, je vais m'évader à n'importe quel prix.
Et après,
quand j'étais à l'étranger, j'ai réussi à publier dans l'Empire des Ténèbres en Allemagne et à Taïwan.
Pouvez-vous rentrer dans votre propre pays aujourd'hui?
Évidemment que non. Pour eux, je suis quelqu'un de très dangereux.
Avez-vous de la famille encore dans votre propre pays?
Oui, j'ai encore ma mère. Elle a 88 ans. Et quand je quittais ma Chine, ils sont allés voir ma mère et ils lui ont demandé comment il a fait. Mais puisque vous ne savez pas, leur a-t-elle répondu, comment moi je pourrais savoir?
Vous n'êtes pas le seul à pouvoir manifester votre esprit d'indépendance et votre esprit de liberté. Liaoyiwu, il y en a d'autres aussi courageux que vous qui expriment leur révolte vis-à-vis de leur tutelle politique, notamment par le biais de la caméra. Et parmi eux, je pense à l'admirable cinéaste Wang Bing. Et je vous propose d'écouter un très court extrait, je vois que vous le connaissez, un très court extrait d'un film magnifique que nous avons pu voir en France, qui s'intitule « Les âmes mortes » et qui est destiné à essayer de faire comprendre aux Occidentaux ce que vit actuellement la communauté Ouïghour. Écoutez. Pouvez-vous nous résumer, Marie Holzmann, et je m'excuse de ne pas vous avoir remercié depuis le début de cette émission. J'ajoute que vous assumez là magnifiquement la traduction simultanée en direct dans ce studio, mais que vous êtes aussi la traductrice des écrits de Liaoyiwu. Et c'est grâce à vous que nous pouvons connaître l'ampleur de cette œuvre, de cet auteur qui a déjà à son actif plus de 4 livres dans des registres différents et qui a reçu en Allemagne les prix les plus prestigieux. Pouvez-vous nous dire ce qui vient d'être prononcé dans ce film de Wang Bing, l'auteur justement de plusieurs chefs-d'œuvre, notamment À l'ouest des rails, et de ce documentaire Les âmes mortes.
C'est une femme qui décrit le corps des gens qu'elle a vus torturer et qui décrit toutes sortes de d'horreurs, des peaux brûlées, des coups, des corps meurtris.
Pouvez-vous nous dire, Léa Iwu, si dans votre démarche, comme celle de Wan Bing, qui collecte la mémoire des survivants, des drames à l'intérieur de son propre pays, pouvez-vous vous dire, vous, qu'on compare à Solzhenitsyn, s'il y a une dimension épique, collective, et un espoir de d'ébranler peut-être des jeunes générations, essayer de provoquer peut-être des ondes de choc à l'intérieur de votre propre pays, Liao Yiwu. On ne peut pas dire que vous êtes un homme politique, vous êtes plutôt quelqu'un animé par la mémoire collective des résistances de votre propre pays, mais pas un militant politique, peut-être un militant pour la paix, mais pas un militant politique. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, en ce printemps 2019?
Ce qui m'anime, c'est d'écrire des livres et de ne pas laisser oublier tout ce qui s'est passé. Maintenant, il s'est passé 30 ans depuis Tiananmen. Et évidemment, tous ceux qui ont résisté à l'oppression et au massacre, maintenant, c'était des jeunes. Il était, par exemple, on parle d'un jeune homme qui s'appelait il a été frappé par les soldats alors qu'il tenait dans sa main son appareil photo. Il n'a jamais voulu lâcher son appareil photo pendant qu'il était frappé par des coups de baïonnette. On sait qu'il a gardé son appareil contre sa poitrine jusqu'au bout. Les meurtriers ont utilisé énormément d'énergie pour l'achever. Et on sait qu'il a subi 7 coups de baïonnette dans la poitrine. Mais jusqu'au dernier moment, il a gardé les yeux fixés sur son bourreau. Et même à ce moment-là, il n'a pas lâché l'appareil. Ça, c'est une scène qu'on ne peut pas oublier. Si quelqu'un avait pu filmer cette scène, mon Dieu, ce serait quelque chose d'encore plus fort que Wang Weilin, mais beaucoup plus violent aussi. Je voudrais dire aux jeunes d'aujourd'hui, je voudrais leur dire ce qui s'est passé, qui étaient les jeunes de l'époque.
Nous avons évoqué le drame que subit la minorité ouïghour en ce moment, qui fait l'objet d'une féroce répression et d'un véritable génocide culturel. Ce sujet est totalement censuré dans les médias et très peu de journalistes chinois peuvent aller voir ce qui se passe dans cette province si lointaine. Avez-vous des possibilités de rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui dans votre propre pays ? Liao Yiwu, alors que vous êtes exilé à Berlin, avez-vous des correspondants du temps d'Internet et des réseaux sociaux? Êtes-vous justement collecteur d'informations?
Oui, je suis au courant de ce qui se passe. Nous savons qu'il y a peut-être 1 ou 2 millions de Ouïghours qui ont été rassemblés dans des camps de rééducation. Nous savons qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour les surveiller nuit et jour, que maintenant, l'entièreté de la province du Xinjiang est complètement quadrillée par ces caméras qui les surveillent à chaque instant. Ils ont rapporté de grands succès à la fois dans la surveillance et dans le travail du lavage de cerveau. Mais l'Occident doit se méfier parce que je crois que une fois qu'ils auront transformé toute la Chine en une vaste prison, ils vont exporter ce modèle, ce système et ces systèmes de surveillance vers le reste de l'humanité. Cette intelligence artificielle va servir à la dictature et elle pourra renverser la démocratie. Il faut faire attention que les démocrates ne détruisent pas la démocratie avec leur technologie.
Votre président est venu nous rendre visite. Il a été reçu à l'Élysée la semaine dernière. est-il emblématique de ce pouvoir que vous décrivez? Pensez-vous que la Chine va pouvoir être un jour beaucoup plus transparente vis-à-vis de cette définition de ce mot démocratie que vous appliquez, que vous connaissez extrêmement bien, Liao Yiwu?
Même si le président Macron a un peu changé d'attitude, je trouve qu'il est trop jeune. Il ne sait pas ce qui s'est passé en 1989. Il n'a pas connu l'histoire de la période de Mao. Alors, bien sûr, il va peut-être dire à Xi Jinping qu'il voulait lui parler franchement, qu'il voulait être dans un dialogue amical. Je pense que Macron n'est pas à ce niveau. Xi Jinping a répondu tout de suite, si vous nous faites confiance, vous ne devriez pas exprimer tant de méfiance à notre égard. Et je crois que Xi Jinping, son but, c'est vraiment d'abîmer la démocratie en France. Xi Jinping veut abîmer la démocratie, mais c'est aussi un assassin. Il faut pas oublier que ces gens-là ont du sang sur les mains et qu'ils veulent exporter leur système de surveillance du monde entier.
Je vous propose, Liao Yiwu, de terminer cette émission comme nous l'avons commencé. Votre dernier livre intitulé « Des balles et de l'opium » se termine par un poème. Il est très court. C'est un poème de l'amour. Pouvez-vous prendre vos deux instruments, votre flûte et votre petit tambour? Pouvez-vous commencer à jouer de vos deux instruments? Pendant ce temps-là, je vais lire votre dernier poème d'amour. Vous êtes d'accord?
Est-ce que vous ne voulez pas que moi je chante plutôt chant à mon ami le poète Li Bifeng qui est en prison?
C'est encore mieux.
Un poème de Li Bifeng que je vais vous chanter.
Ah, merci infiniment. On vous écoute.
Un poème qui s'appelle « Dans un pays pareil, on ne peut qu'hiberner ».
Merci infiniment, Liao Xiaobo. Vous pouvez nous dire, Marie Holzman, ce que vient de chanter notre ami Liao?
Oui, c'est un poème de Li Bifeng qui a été condamné à 11 ans de prison lui aussi. Et dans ce poème, Li Bifeng dit « L'hiver est revenu, nos cheveux ont blanchi, nos peaux se sont parcheminées. Dans cet univers sans espoir, nous ne pouvons plus qu'hiberner. »
Eh bien moi, si vous me le permettez, Liao Yiwu, je vais terminer en lisant votre dernier poème qui clôt votre dernier opus publié en ce moment grâce à Marie Holzman aux éditions du Globe, intitulé « Des balles et de l'opium ». Vous pouvez prendre votre flûte, hein, si vous voulez. « Par une nuit de lune ». Non, vous voulez pas prendre votre flûte. Non, bon. « Par une nuit de lune, j'ai traversé les forêts, j'ai pensé à mon épouse, long sommeil dans le giron de la paisible terre jaune. De loin me parviennent des coups de feu. À l'époque, mon sang ardent bouillait dans mes veines, sur l'épaule je portais le destin de mon pays. Aujourd'hui, mes deux poings sont vides, les ans ont brisé la lame de mon sabre. Par une nuit de lune, j'ai traversé mes souvenirs, j'ai pensé à mon épouse. Vivant, je vais vieillir en vagabond, morte, tu restes éternellement jeune. » Merci infiniment. Liao Yiwu, Des balles et de l'opium, vient de paraître ces jours-ci aux éditions du Globe, et Marie Holzman a assuré la traduction simultanée.